Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h30, bonjour à tous, bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. On n'en sait plus sur les circonstances du terrible accident de voiture dans le Jura qui a fait 4 morts, 4 jeunes d'un même lycée, il y a un survivant de 17 ans. Nous serons dans un instant en direct avec le recteur de l'Académie. De l'Académie de Besançon. Hein. Nouveau conseil de défense sanitaire ce matin. Jacques Seret nous dira ce qui se profile en termes d'allègement des restrictions. L'ouverture de Parcoursup aujourd'hui. Comment s'inscrire? On verra également quels sont les pièges à éviter. Et puis la tendance météo, c'est important aussi. Anissa Haddadi avec un ciel plus lumineux aujourd'hui.
Oui, c'est bien mieux qu'hier, hein. Surtout sur le nord-ouest. C'est là que le soleil sera le plus généreux avec de belles éclaircies. Quelques flocons encore cet après-midi dans l'est et en Auvergne. Et puis au bord de la Méditerranée, le vent souffle fort. Les températures, elles, sont stationnaires sur l'ensemble du pays.
Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète.
Europe 1.
Des parents dévastés par la douleur, des camarades en larmes, la mort des 4 adolescents dans le Jura dans un accident de voiture a engendré une tristesse incommensurable. Leur voiture a glissé sur une route très verglacée et a terminé dans un lac. Il n'y a qu'un seul survivant, un garçon de 17 ans. Nina Dorf avec nous. Bonjour Nina.
Bonjour.
On en sait plus sur ce qui s'est passé. Il faut dire que le préfet et le procureur ont pris la parole ce matin.
Oui, cet accident semble être lié à une perte de contrôle causée par le verglas, comme vous l'avez dit, et comme l'a expliqué le procureur de L'Aulne-Saunier, Lionel Pascal.
Ce qui d'ores et déjà est flagrant et est indiscutable, c'est que la route était extrêmement glissante. Le véhicule a pris un chemin où il n'a rencontré aucun arbre. Alors on a juste fait le constat d'une petite écorchure sur un arbre, mais qui n'a pas permis de stopper la course fatale du véhicule qui donc s'est terminé dans le lac, sur le bord du lac, mais un endroit où la profondeur est déjà suffisante pour que le véhicule et son habitacle soient même totalement immergés.
Scénario catastrophe donc qui coûte la vie à 4 adolescents. L'un des passagers de 17 ans, celui qui était assis au milieu à l'arrière du véhicule, est parvenu à s'extraire. Il est actuellement hospitalisé en hypothermie et en état de choc. Et du côté des habitants, c'est évidemment la sidération. Écoutez le préfet du Jura, David Filot.
C'est véritablement un drame pour le Jura. Ce sont 4 jeunes, le bilan est très lourd et il frappe des jeunes gens. On a vraiment une pensée très émue pour leur famille.
Une cellule d'écoute psychologique a été mise en place dans le lycée où étaient scolarisés les 4 jeunes pour soutenir les élèves et le personnel.
Nina Droff, merci beaucoup Nina. On est en direct avec Jean-François Chanet, recteur de la région académique Bourgogne-Franche-Comté de l'Académie de Besançon. Bonjour Jean-François Chanet, merci d'être,
bonjour,
merci d'être avec nous. Au lycée de Champagnole où étaient scolarisés les jeunes, c'est toute la communauté éducative qui est évidemment immensément triste. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour les aider ?
Eh bien, nous nous sommes rendus sur place dès hier soir avec l'inspecteur d'académie du Jura, accompagné de son médecin conseiller technique, ainsi que de l'époux de cet médecin, dont je souligne qu'il était retraité et volontaire pour cela, parce que nous avions une première tâche importante qui était de parler aux internes. Aux autres internes, puisque les 4 victimes sont des élèves internes du lycée. Donc vous imaginez la douleur immédiate de leurs camarades qui, évidemment, étaient dans l'attente d'annonces de notre part et d'un accompagnement immédiat,
oui,
qui a été mis en place aussi, je le souligne, grâce à la présence des psychologues, des pompiers qui sont venus dans la soirée, tout de suite. Et donc nous avons pu nous occuper de ces camarades les plus proches des victimes.
Ouais.
Et puis, l'équipe de direction, l'infirmière de l'établissement ont aussi mis en place les conditions de l'accueil aujourd'hui de tous les autres élèves, des professeurs qui reviennent. Et je peux vous assurer que tous les détails ont été pris en compte.
C'est-à-dire ?
Oh, c'est-à-dire des choses aussi matérielles que l'absence dans une chambre, le lit vide ou la place vide dans une salle de classe. Il va falloir vivre avec cela et changer, le cas échéant, l'organisation des choses pour rendre cette absence moins douloureuse.
Évidemment. Qu'est-ce qu'il faut dire à des jeunes, des adolescents ? On est très émotifs à cet âge-là. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces jeunes qui ont perdu leurs camarades ?
On les écoute d'abord. Moi, j'ai été impressionné du professionnalisme des médecins, des infirmières, psychologues qui étaient là. J'ai vu à quel point ils prenaient soin de distinguer les situations, de laisser la liberté à ceux qui souhaitaient parler de le faire, à ceux qui préféraient rester entre eux ou regagner leur famille, qui les parents ont pu venir les chercher. Vous voyez, il faut pouvoir personnaliser au maximum l'attitude que l'on a face à évidemment une diversité de situations de souffrance.
Évidemment. Merci beaucoup Jean-François Chanet, recteur de la région académique Bourgogne-Franche-Comté et de l'Académie de Besançon. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Il est 12h35.
Europe Midi. Informez-vous avec Romain Desarbres sur Europe 1.
Les Anglais lèvent quasiment toutes les restrictions. Et nous, c'est pour quand les restrictions sanitaires, bien sûr. On part tout de suite à l'Élysée, où se tenait ce matin un conseil de défense sanitaire. Jacques Serret avec nous. Bonjour Jacques.
Bonjour Romain.
Vers quoi se dirige-t-on actuellement? Dites-nous.
Eh bien, on se dirige vers un assouplissement des mesures, mais pas tout de suite. Romain, l'exécutif fait le constat que si le nombre de cas positifs continue d'augmenter, cela n'a qu'un effet très limité sur les hôpitaux et les services de réanimation. On est dans le pic d'Omicron, analyse un poids lourd de la Macronie, et quand le pic est atteint, ça décroît de manière extrêmement rapide. C'est ce que l'on constate chez nos voisins, poursuit un conseiller. Ce que je peux vous dire donc ce midi, c'est que l'optimisme est de mise à l'Élysée et désormais l'objectif de l'exécutif, et je cite un proche d'un ministre, de donner de la visibilité aux gens. En coulisses, un calendrier de levée des restrictions a été établi. Boîte de nuit, télétravail. Si dans 15 jours les conditions s'améliorent, les restrictions seront levées, explique-t-on ici en micro. Et le gouvernement compte bien capitaliser désormais sur cette sortie de crise. Un enjeu de communication positive, dit un conseiller. C'est pourquoi il est question que Jean Castex s'exprime ce soir pour préciser le calendrier acté ce matin.
Merci beaucoup Jacques, beaucoup d'informations. Jean Castex pourrait prendre la parole en fin de journée. Et un calendrier de sortie de crise existe et il sera appliqué si ça va mieux. Professeur Antoine Flao, épidémiologiste, bonjour, merci d'être en direct avec nous. Bonjour. Dans Europe Midi, directeur de l'Institut de Santé Globale de Genève. Quelle est votre réaction déjà à ces informations de Jacques Serret?
Alors je pense qu'il est prudent de dire si dans 15 jours la situation est en décrue épidémique, parce que dans le fond, on avait un peu prédit que le pic serait atteint ces jours-ci, mais les nouvelles contaminations semblent un peu déjouer ces pronostics. Un petit peu, rappelez-vous, le 15 décembre, on prédisait aussi un pic de la vague Delta, pic qui a eu lieu, mais c'était sans compter le fait que le variant Omicron est arrivé à ce moment-là. Donc je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Ce que l'on voit, c'est que les Danois, par exemple, le Danemark, pensaient atteindre un pic à peu près au même temps que le Royaume-Uni. Ils avaient aussi une ou deux semaines d'avance, si je puis dire, sur de décalage, en tout cas sur l'épidémie française. Et le Danemark est en pleine remontée. Donc malheureusement, la situation reste encore extrêmement instable et il est difficile pour l'instant d'envisager d'alléger les mesures tant que la situation ne s'est pas vraiment améliorée.
Parce que effectivement, le nombre de cas quotidiens est très important, hein, plusieurs centaines de milliers, 400 000 par 24 heures. Mais on se teste énormément, donc ceci peut expliquer aussi cela. Et quand on regarde le nombre de personnes dans les hôpitaux et le nombre de patients, notamment en soins critiques, il n'explose pas. Il n'y a pas de corrélation entre le nombre très important de cas et le nombre de personnes en soins critiques. Il est autour de 4 000 et il reste autour de 4 000, plutôt en dessous d'ailleurs.
Oui, mais c'est beaucoup, 4 000 personnes, oui, en soins critiques, juste pour une seule maladie qui est le Covid. Donc non, je pense qu'il est difficile de dire aujourd'hui que ce nombre n'explose pas. Si vous regardez la courbe des hospitalisations, elle monte de façon quand même très très préoccupante. Elle n'est pas très très éloignée. Je crois que les derniers chiffres, c'était en France, autour de 27 000 hospitalisations, ce qui n'est pas très loin des niveaux d'hospitalisation des premières et deuxièmes vagues, c'est-à-dire du pire moment de la pandémie. C'est vrai que les soins critiques sont à 4 000, ils étaient montés plus haut, mais encore une fois, l'hiver n'est pas terminé. Donc je pense qu'on a tous envie de pouvoir enfin respirer. Et je pense que c'est une très bonne idée, s'il y a une accalmie, de rapidement lever les mesures et de profiter de l'accalmie, mais on n'en est pas là. On est plutôt, au contraire, au sommet de la vague en ce moment.
On est au sommet de la vague. La situation sanitaire reste tendue, dit Gabriel Attal, qui s'exprime en ce moment même. On a évité le scénario catastrophe, hein, c'est ce qu'il dit, pour le moment, bien sûr. Le pass vaccinal, il va entrer en fonction dans les prochains jours. Ça sert vraiment à quelque chose, alors que le virus Omicron circule à vitesse grand V. On ne va pas l'arrêter, le virus Omicron, passe vaccinal ou pas passe vaccinal, non ?
Non, vous avez tout à fait raison. Le passe vaccinal n'a pas l'objectif d'arrêter le variant Omicron, comme par exemple le passe sanitaire avait eu l'objectif d'arrêter le variant Delta cet été en France, ou en Allemagne, ou en Italie, avec succès. Mais il y a un deuxième objectif du passe vaccinal, comme du passe sanitaire, et qui est un objectif qui a été rempli pour le passe sanitaire, c'était de mobiliser les Français à mieux se faire vacciner et à augmenter la couverture vaccinale, en particulier pour le passe vaccinal, de la troisième dose. Et ça peut être un objectif qui peut être rempli grâce au pass vaccinal. Et il y a un deuxième objectif qui n'est pas moindre, qui est que le pass vaccinal va protéger les non-vaccinés, puisque les non-vaccinés n'auront pas le droit d'aller dans les bars et les restaurants, puisqu'ils n'auront pas le pass vaccinal, et ils n'iront pas dans des lieux à très haut risque de contamination pour eux, parce que, comme vous le dites, la vaccination n'empêche pas la contamination par Omicron.
Merci beaucoup, professeur Flao. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, épidémiologiste, directeur de l'Institut de Santé Globale de Genève. Et puis voilà, je vous rappelle cette information que nous donnait Jacques Serret depuis l'Élysée. Un calendrier de sortie de crise sanitaire existe. Il pourrait commencer à être mis en place dans une quinzaine de jours et Jean Castex pourrait prendre la parole ce soir pour annoncer les détails de ce calendrier. 12h41, restez bien avec nous sur Europe 1. Dans Europe Midi, dans un instant, on va parler des puffs. Les puffs, ces cigarettes électroniques réservées aux ados. C'est un danger public. On vous dit tout dans un instant. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h44, les marchands de nicotine ne reculent devant rien pour faire fumer vos enfants. Ils ont inventé la cigarette électronique jetable pour les ados. Ça s'appelle les puffs, le packaging plaît aux jeunes. Et ça a le goût de bonbon. Officiellement, évidemment, c'est pas pour les jeunes puisque c'est interdit de les... La vente est interdite hein, pour les moins de 18 ans. Mais dans les faits, c'est à eux que ça s'adresse. Zoé Pallier avec nous. Bonjour Zoé.
Bonjour Romain.
Ça touche des adolescents de plus en plus jeunes. Hein.
Oui, clairement, la preuve avec cet élève de terminale.
Les puffs, c'est un truc de collégien, quoi.
En fait, ce sont surtout des jeunes de 13-14 ans qui fument ces nouvelles cigarettes électroniques, les puffs, une sorte de petit bâton coloré d'où sort une fumée plutôt discrète, très facile donc à glisser dans une poche ou un sac de cours.
Même dans une trousse, ça se met, après on peut fumer en cours. Pour chaque couleur, c'est un goût différent en fait.
Il y a fraise, ananas,
un peu de la barbe à papa fumée.
Voilà, des goûts sucrés, acidulés, ces puffs paraissent inoffensives, mais elles contiennent entre 1 et 2% de nicotine. Vous le disiez, Romain, leur vente est donc interdite aux mineurs. Mais tous confient s'en procurer très facilement en quelques clics sur les réseaux sociaux ou chez le buraliste.
C'est plusieurs connaissances qui viennent me dire « Ouais, va tester, ils demandent pas ton âge, tout ça. »
Si on fait plus d'1m40, on passe facilement.
Des adolescents et pré-adolescents pourtant plus sensibles à l'addiction.
Je pourrais m'arrêter, mais j'emmène partout ma puff. Dans ma chambre, sortant de chez moi, à 10h, à midi, à 15h, on peut avoir notre puff tout le temps.
Et d'ailleurs, on le voit déjà, hein, certains collégiens devenus dépendants à la nicotine à cause de ces puffs ont déjà commencé à les délaisser pour les cigarettes traditionnelles.
Merci beaucoup Zoé Pallier. Bertrand Dotzenberg, bonjour. Vous êtes pneumologue, tabacologue, secrétaire général d'Alliance contre le tabac. Vous avez entendu Zoé Pallier, hein, ces puffs, c'est clairement pour amener les très jeunes vers le tabac. C'est une stratégie.
Vers la nicotine, c'est une stratégie qui reprend une stratégie qui a déjà été utilisée il y a 5 ou 6 ans avec en particulier une cigarette électronique qui est la Juul aux États-Unis, qui était ultra chargée en nicotine, à 3 fois plus que c'est autorisé en France et qui avait fait un grand succès aux États-Unis avec le même marketing en montrant des produits sucrés, colorés et des petites choses. Oui, ce n'est pas un bon produit. Mais c'est un produit qui tue moins que le tabac, mais c'est un produit qu'il faut empêcher tout ce qu'on peut, faut faire tout ce qu'on peut pour empêcher que ce produit se répande. Et ce produit est un produit toxique, c'est un produit qui contient de la nicotine. La cigarette électronique, je ne suis pas opposé à la cigarette électronique, mais c'est un produit pour les fumeurs, pour sortir du tabac. Ce n'est pas un produit pour jouer dans la cour de l'école en quatrième.
Sauf que là, c'est un produit pour rentrer dans le tabac. Parce que même s'il y a très peu de nicotine, ça crée une addiction, on l'a vu, hein.
Alors, l'addiction créée par la cigarette électronique ou par les puffs est moins rapide que celle de la cigarette. C'est un petit peu comme celle de la chicha. Mmh. La dépendance de la nicotine est un peu plus lente et l'addiction est moins rapide. Ce qui est addictif, c'est la publicité qui est faite autour, l'ambiance qui est faite autour, et c'est ça qui est délétère, qui est toxique. C'est-à-dire que si les produits existaient sans tous ces l'attirail qui l'entoure, ça aurait été une bonne chose. Mais là, c'est une aventure sur réseaux sociaux pour rendre ce produit à la mode. Il faut que les jeunes sachent que ce produit, c'est de la nicotine. Il faut qu'ils sachent que ce produit rend addictif et que, en plus, c'est par rapport aux cigarettes électroniques, c'est des cigarettes électroniques de vraiment très mauvaise qualité, qui sont pas chères, qu'on jette. Quand on les jette, on jette des piles, on jette des choses non recyclables dans la nature. C'est une source de pollution.
Merci beaucoup Bertrand Donzenberg, voilà, qui nous a dit que la cigarette électronique servait, si on est fumeur, pour sortir du tabac. Mais il faut en sortir, il faut sortir de la cigarette électronique. Et la cigarette électronique, elle est dangereuse aussi. Hein, c'est-à-dire que c'est mauvais pour la santé, c'est pas bon. Et ça peut servir pour sortir de la cigarette, mais pas pour y rentrer. Voilà, les puffs, c'est à éviter, faites attention. 12h48, Parcoursup. Parcoursup est ouvert depuis 11h ce matin, depuis 1h48 exactement. Les lycéens se connectent et peuvent s'y inscrire pour choisir leur formation. Ça concerne plus de 800 000 jeunes, lycéens, mais pas que d'ailleurs, étudiants en reconversion également. Louise Salé avec nous. Bonjour Louise.
Bonjour.
Comment ça fonctionne ?
Alors les élèves indiquent au maximum 10 vœux sans les hiérarchiser hein, et ils ont jusqu'au 29 mars pour le faire. Quelques jours permettent ensuite de finaliser le dossier et de confirmer chaque choix dans la liste établie. Il faudra enfin tout valider avant le 7 avril. Mais il y a un élément qui empêche les lycéens d'être sereins cette année encore par rapport à Parcoursup, c'est l'éventuel report des épreuves de spécialité du bac. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, doit faire une annonce très prochainement dans ce sens, parce qu'en raison de la situation sanitaire, les révisions sont perturbées et ces épreuves de spécialité qui se déroulent en mars pourraient être déplacées en juin. Les lycéens s'en inquiètent parce que ces notes de mars comptent dans Parcoursup. Certains misent sur de bons résultats à ces examens pour améliorer leur dossier. Mais si ces épreuves de spécialité ont lieu en juin, eh bien ce sera trop tard.
Merci beaucoup Louise Salé. Je vous confirme l'information que je vous donnais au conditionnel il y a quelques instants. Jean Castex et Olivier Véran vont s'exprimer ce soir à 19h pour évoquer la levée progressive des restrictions sanitaires. Conférence de presse du Premier ministre et du ministre de la Santé à 19h. Il est 12h50. Restez bien avec nous sur Europe 1 dans un instant. On va écouter ensemble un témoignage recueilli par Jean-Luc Boujon, témoignage d'un rescapé, d'un survivant du crash du Mont Saint-Odile. C'était il y a 30 ans, jour pour jour. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h52. C'était il y a 30 ans, jour pour jour, on s'en souvient tous, le crash du Mont Saint-Odile près de Strasbourg. Un A320 d'Air Inter s'était écrasé à l'approche de l'aéroport. Les deux pilotes avaient tragiquement désactivé le système de détection d'approche du sol. Bilan 87 morts et 9 survivants, parmi lesquels un petit garçon de 8 ans à l'époque, qui en a 38 aujourd'hui, Romain, que vous avez rencontré, Jean-Luc Boujon, en direct avec nous. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Romain.
Comment vit-il aujourd'hui et qu'est-ce qu'il est devenu ?
Eh bien, effectivement, c'est un homme de 38 ans qui n'habite plus en Alsace. Il vit aujourd'hui dans la station de ski de La Plagne, en Savoie. Il tient un magasin de location de ski, justement. Et il cultive d'ailleurs une attitude assez cool, un look de surfeur, barbe de 3 jours, dreadlock. Et c'est vrai que quand on le voit, il est absolument impossible de deviner le drame qui l'a frappé il y a 30 ans. Drame auquel pourtant il pense tous les jours.
C'est toujours un peu compliqué. J'y repense encore très souvent. Oui. Les débris de l'avion, les victimes et l'odeur aussi de l'accident. Le froid et une attente très longue pour les secours.
Alors durant cette attente dans la neige, deux adultes vont s'occuper du petit garçon qu'il était, notamment faire du feu pour le réchauffer. Deux hommes qui sont toujours aujourd'hui des amis très chers pour Romain. Romain qui, depuis plusieurs années, a choisi de vivre sa vie très intensément.
Je vis un peu à fond, oui, je bouge beaucoup, je pratique beaucoup de snowboard, de randonnée de montagne. Je voyage beaucoup, changer de continent ou aller dans d'autres pays bien plus loin.
Vous prenez l'avion ?
Je reprends l'avion, oui, effectivement, seulement pour les longs trajets.
Sinon vous évitez ?
Sinon, si je peux éviter, j'évite, oui.
Voilà, cette catastrophe a marqué sa vie. Le procès aussi, ces longues années de procédure qui n'ont finalement abouti en appel à aucune condamnation. Lui, Romain, parle d'injustice. Mais aujourd'hui, il essaie de tourner la page. C'est pour ça qu'il ne sera pas présent lors des commémorations du crash qui auront lieu ce week-end.
Ça fera toujours partie de ma vie, mais effectivement, il y a d'autres choses maintenant et j'ai pas envie de prendre le temps pour ça, malheureusement. Mais je serai de tout cœur avec eux.
Alors Romain Duclos veut aujourd'hui vivre sa vie, passer à autre chose, ne plus être seulement l'enfant rescapé du crash du Mont-Saint-Odile.
Jean-Luc Boujon, merci beaucoup Jean-Luc. Le sport à présent, l'Open d'Australie à Melbourne avec Benoît Paire qui passe le troisième tour, avec Richard Gasquet qui rentre à la maison sur abandon. Et puis chez les filles, Alizé Cornet s'offre un beau cadeau d'anniversaire, on peut le dire, en battant la numéro 3 mondiale, Axel May avec nous. Bonjour Axel.
Bonjour.
C'est vraiment la belle histoire sportive du jour, ça.
Ah oui, il fallait voir le sourire d'Alizé Cornet et entendre sa première réaction in English juste après sa victoire alors qu'elle était encore sur le court. Voilà, alors elle explique, dans deux jours, c'est mon anniversaire, alors c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire. Sans prévenir, la niçoise a infligé un 6-3 à l'espagnol Muguruza, finaliste de l'Open d'Australie il y a deux ans. Victoire en pleine nuit, heure de Paris. Et une fois sa douche prise, Alizé Cornet s'est présentée devant les journalistes et elle kiffait.
Bon, je suis contente, j'ai fait un match de tennis, j'ai kiffé. Il y avait une super bonne ambiance dans mon clan, dans mon box. J'ai appelé toute ma famille après le match. Il y en a plein qui sont restés debout. Enfin, c'est que des bonnes vibes en fait. Donc forcément, oui, là tout de suite, je suis très contente.
Alors les bonnes vibes, hein, les bonnes vibrations. Alizé Cornet, 61e mondial, dispute son 60e tournoi du Grand Chelem consécutif. Elle a donc réussi incontestablement la perf du jour. Et samedi, on lui souhaite de souffler victorieusement ses 32 bougies. Elle affrontera pour une place en 8e de finale la Slovène Tamara Zidanšek, 29e mondial.
Merci Axel, elle a kiffé avec des bonnes vibes. Kiffé, alors je suis allé voir, hein, là, pendant que vous parliez, je vous écoutais, hein, mais dans le Larousse, effectivement, c'est dans le Larousse. Hein, c'est familier, qui apprécier, aimer, prendre du plaisir.
Bah, moi je vous kiffe. Hein.
Mais on vous kiffe aussi Axel. Merci beaucoup. 12h56, allez, le temps, on kiffe également Anissa Haddadi qui nous dit que ça s'améliore aujourd'hui.
Oui, après la journée très grise d'hier, ça va mieux aujourd'hui, Romain. Beaucoup mieux même dans le nord-ouest, hein, de la Bretagne à la région parisienne, en Normandie, sur les Hauts-de-France, le centre-Val de Loire, les Pays de la Loire. On a un ciel bien plus dégagé, avec même de belles périodes ensoleillées cet après-midi. Mais le vent souffle sur les côtes de la Manche jusqu'à 50 km/h. Les chutes de neige de ce matin se calment aussi cet après-midi. On a encore quelques flocons des Ardennes à l'Alsace, hein, le long des frontières de l'Est. Et puis en Auvergne, quelques centimètres de neige au-dessus de 500 mètres d'altitude. De la Vendée à la Bourgogne, là on a un ciel qui alterne entre nuages et éclaircies. En Occitanie, c'est pas terrible. En Occitanie, Massif central et Jura, le ciel reste encore bien gris. Et puis au bord de la Méditerranée, c'est aussi le retour du soleil dans une ambiance très venteuse. Le Mistral souffle jusqu'à 90 km/h. Les températures sont stationnaires quasiment comme hier. 2 degrés à Saint-Etienne, 5 à 3 et Lyon, 6 degrés pour Toulouse et Lille, 7 à Paris, 11 à Biarritz, 13 pour Nice et Ajaccio et 14 à Montpellier.
Anissa Haddadi, merci beaucoup Anissa. 12h57, on se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi. Dans un instant, c'est la France Bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Très bon après-midi sur Europe 1. À demain.